coup de voir.
C'est pas parce qu'on a un handicap visuel que le chemin s'arrête là. Non, ça ouvre d'autres portes du moment qu'on a accepté l'handicap. Si un jour on aura des petits-enfants, ben, je pourrais les porter, mais je pourrais pas voir leur visage. Dans cet handicap-là, c'est peut-être vraiment la chose la plus difficile.
Christophe Rollinet a 52 ans. Il vit à Cugy, dans la Broye, avec son épouse et son chien. Un chien d'assistance, car depuis une dizaine d'années, son quotidien est plongé dans le noir le plus total, depuis qu'il a perdu la vue. Le chemin vers l'acceptation a été long et semé d'embûches, vous l'entendrez. Mais aujourd'hui, son handicap, il en a fait une force, un atout pour aider et accompagner celles et ceux qui en ont besoin, notamment grâce à la section fribourgeoise de la FSA, la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, dont il est le président. Voici l'épisode 3 de la série « Des bâtons dans les roues », un podcast signé Lauriane Schott.
Je suis né malvoyant. En quelques mois, j'ai l'œil gauche qui, lui, n'a jamais fonctionné parce que c'est une amoureuse du nerf optique. Donc, pour faire simple, c'est comme si vous preniez un câble électrique et dans le câble électrique, vous avez des fils de cuivre pour faire passer l'électricité. Et dans mon nerf optique, donc, il n'y a pas ces fils. Donc, du coup, il n'y a pas la connexion qui se fait. Et l'œil droit, il y a plusieurs pathologies, dont la fameuse rétinique pigmentaire. Et j'ai une malformation au fond de l'œil, donc il y a un trou qui fait que la rétine pigmentaire, donc c'est une maladie dégénérative qui, avec les années, rétrécit le champ visuel. On voit comme dans un tube. Sauf que moi, le problème, c'est que vu que j'ai un trou dans le fond de l'œil, ben, au lieu d'avoir une vision tubulaire, ben, il n'y a plus rien.
Ah oui, au fait, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Christophe Rollinet est un grand sportif. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés dans une forêt, dans la Broye, un endroit qu'il connaît comme sa poche, puisqu'il y passe de longues heures pour faire de la course à pied notamment.
Ça signifie que vous avez commencé à perdre la vue à partir de quel âge? Alors vous étiez déjà malvoyant de naissance,
oui,
mais ensuite ça s'est dégradé progressivement à partir de quel moment?
La maladie est progressive, donc il y a des personnes à qui ça arrive plus rapidement que d'autres. Et pour moi, il m'est arrivé un choc psychologique, j'ai perdu mon papa dans des conditions assez tragiques, et du coup ça a accéléré, enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué, accéléré l'évolution de la maladie. Je n'étais pas forcément censé devoir perdre mon résidu visuel aussi jeune. Ça a vraiment commencé, je dirais, vers l'âge de 30-35 ans. Et ça s'est accéléré le jour où j'ai perdu mon papa. Et là, en l'espace de 6 mois, j'ai quasiment perdu le solde ou bien le reste de ma vision.
Et comment est-ce qu'on apprend à vivre avec moins de vision?
Ça a été un long chemin et assez compliqué. Tout d'abord, quand la maladie a accéléré, j'ai bien sûr perdu mon travail, hein, parce que j'avais la chance quand même de pouvoir travailler. J'ai expliqué ça à mon entreprise, qui ont été très sympas avec moi, parce qu'ils m'ont suivi tout le long de la procédure. Ils ont essayé de mettre les choses sur pied pour que je puisse rester au sein de l'entreprise. Malheureusement, la problématique de l'handicap visuel est assez compliquée pour les entreprises. Donc j'ai perdu mon travail, j'ai perdu une grande partie de mon autonomie et je me suis senti un petit peu perdu dans tout ça. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, comment ça va aller? Et mon épouse, qui était très proche dans ce moment-là, même encore aujourd'hui, mais qui était très proche dans ces moments-là, a trouvé la FSA sur Fribourg. Elle a pris rendez-vous pour moi et nous avons été à ce rendez-vous. Et c'est grâce à elle et à la FSA qui m'ont remis gentiment sur le chemin. Et de là, il y a les procédures qui se sont mises progressivement en place. Et puis petit à petit, j'ai découvert d'autres façons de vivre sans la vue. Et petit à petit aussi, je me suis mis à intéresser à d'autres choses, dont l'informatique. Donc j'ai toujours beaucoup aimé l'informatique, mais là, j'ai encore plus apprécié l'informatique avec tous les logiciels qui sont adaptés pour les aveugles et malvoyants. Et ça m'a permis aussi maintenant de pouvoir travailler dans ce milieu. Et ensuite, il y a eu les adaptations avec les moyens auxiliaires, la canne blanche. Il faut travailler sur les déplacements qui n'est pas simple du tout, mais vraiment pas du tout quand on se retrouve confronté avec une canne et devoir se déplacer en ville. Un exemple sur Pérol, quand on va y de monde avec une canne, c'est vraiment très très stressant. Et ben là, il y a eu un travail qui s'est fait avec un instructeur en locomotion et de fil en aiguille, c'est une autre façon de faire et puis on s'adapte. pour ma part, avec tout ce que j'avais mis sur place, la canne blanche n'était pas un moyen très efficace pour moi. Et puis, j'ai opté pour le chien guide. Et puis, depuis, ça roule.
Quand on sait qu'on va perdre la vue, on sait qu'il y a des choses donc, qu'on ne verra plus. Vous êtes marié, vous êtes papa aussi. Le visage de vos enfants, le visage de votre épouse, ce sont des choses que vous ne voyez plus. Vous avez peut-être les dernières images en tête. Comment est-ce que vous faites pour accepter ce fait-là? Vous n'allez plus les voir grandir, vieillir aussi?
C'est vraiment la partie la plus pénible, je dirais. Parce que c'est vrai que, bah, comme vous disiez, je ne vois plus le visage de mes enfants. Après, je dis toujours, pour embêter mon épouse, je dis, mais tu as de la chance parce que je ne te vois pas vieillir. Pour moi, tu es toujours belle. Et surtout, ce qui m'embête, entre guillemets, c'est que si un jour, on aura des petits-enfants, ben, je pourrais les porter, mais je ne pourrais pas voir leur visage. Dans cet handicap-là, c'est peut-être vraiment la chose, pour moi, encore une fois, la plus difficile.
Dans votre quotidien, quels sont les obstacles que vous rencontrez?
L'accessibilité. Au niveau de l'accessibilité, il y a encore beaucoup de choses qui sont à résoudre. Ce que je veux dire par là, c'est l'accessibilité des bâtiments publics. Quand on ne voit pas, donc il faut mettre sur pied des choses qui nous permettent d'y accéder. Donc j'entends forcément la fameuse ligne tactile, peut-être des orateurs avec des synthèses vocales qui nous informent d'où on se trouve. Pour les personnes malvoyantes, donc il faut faire les adaptations nécessaires par rapport à la luminosité et les contrastes. Ça, c'est super important pour eux. Encore également dans les transports publics, où là, il y a encore des choses à faire. Malgré qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, bah, j'insiste un peu là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites jusqu'à présent. C'est super, hein, donc je remercie un peu tout ça, tous ces gens-là qui ont mis ces choses sur pied. Mais il y a encore du travail et c'est ce que nous aussi, on essaye un peu, dans le cadre de mon titre de président, d'expliquer aux gens et de mettre les professionnels en situation pour l'expliquer. Que voilà, quand on ne voit pas ou pas bien, qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un bâtiment et puis d'avoir aucune aide.
Écouter pour voir, c'est des choses qui peuvent exister, notamment dans l'audiodescription, pour entendre et ainsi voir un film, entendre ainsi voir aussi des rencontres de différents sports. Vous êtes passionné par le sport. En quoi cette sorte d'audiodescription peut vous aider aussi dans la consommation du sport?
Tout ce qui est visuel dans l'audiodescription les décrit. L'audiodescription remplace les yeux. Et est super importante du coup pour nous, que ce soit, comme vous dites, un film, un théâtre. Donc il y a des associations qui ont été créées et qui œuvrent dans cette idée afin de proposer des pièces de théâtre en audiodescription. Il y a des films qui sont faits avec des bandes en audiodescription. Et puis là, on a eu la chance d'avoir eu un match de Fribourg-Gotteron en audiodescription. Les gens qui sont venus avec moi ce jour-là pour ce match ont été enchantés. Leur sourire se lisait sur leur visage, si je peux me permettre cette expression. Donc l'audiodescription, c'est une chose qui est très très utile pour nous et qui doit être encore mis en avant pour bien des choses.
Est-ce que vous avez l'impression que tout est possible?
Je dirais non et oui. Non, parce qu'il faut accepter l'handicap. C'est la chose la plus difficile à faire. Il faut s'accepter en tant que personne déficiente visuelle. Donc, c'est un gros travail à faire sur soi-même. Mais je pense que si on est bien accompagné, si on a un bon suivi, qu'on s'entoure de bonnes personnes, ce que j'ai eu la chance d'avoir, on pourrait arriver à se créer une vie agréable. Oui, je pense. Et j'œuvre un peu pour expliquer aussi pour les personnes qui sont déficientes visuelles depuis peu, qui sont un peu dans le déni, leur faire comprendre qu'avec le temps, ça va changer. Et j'aimerais que aussi faire comprendre que c'est pas parce qu'on a un handicap visuel que le chemin s'arrête là. Non, ça ouvre d'autres portes du moment, comme je disais au début, qu'on a accepté l'handicap.
Ça a été facile pour vous d'accepter ce handicap ?
Non, du tout. Du tout, je suis parti quand même en une espèce de mini-dépression. Ça m'a fait quand même perdre plus de 20 kilos parce que je me suis senti plus bon à rien. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut se donner du temps et laisser faire les choses, savoir rebondir et trouver les bonnes personnes. C'est aussi ça qui est assez compliqué, avoir la chance d'avoir des bonnes personnes derrière. Et en Suisse, par rapport à d'autres pays que j'ai eu l'occasion de visiter, on est quand même bien entouré. Mais non, c'est pas facile.
Au moment de vous présenter, vous avez parlé de cet handicap comme un atout. En quoi c'est un atout aujourd'hui pour vous ?
Pour moi, c'est un atout, mais c'est personnel. Cet handicap m'a permis de m'épanouir en tant que personne aveugle et m'a permis de découvrir plein de choses dans le sport. Et dans le sport, je ne savais pas qu'il y avait tout plein de sports adaptés et adaptables que j'essaye moi-même aussi de mon côté d'adapter et de pouvoir proposer aux gens qui souhaitent le pratiquer. L'handicap m'a aussi permis de devenir différent de ce que j'étais auparavant. Donc juste quelqu'un lambda qui se levait le matin, qui allait travailler, qui rentrait le soir. Grâce à mon handicap, on est là ensemble aujourd'hui. J'ai pu passer plusieurs fois aussi pour différentes choses dans les journaux, fait des sensibilisations et autres, et découvrir des pays. Voilà, grâce à mon handicap, je suis parti avec d'autres membres aussi déficients visuels au Togo, afin de faire une mission humanitaire là-bas. Et aussi, quand on était là-bas, on s'est assez vite rendu compte que les personnes déficientes visuelles, elles n'ont rien. Nous, on est gâtés par rapport à ces gens qui sont là-bas. Et si je n'avais pas eu mon handicap visuel, je n'aurais pas eu cette chance de faire tout ça, et j'espère que je vais pouvoir en faire encore d'autres et découvrir d'autres choses encore.
Donc finalement, ce qui devait être une situation qui allait vous mettre des bâtons dans les roues, c'est devenu finalement une sorte d'opportunité.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais encore une fois, il faut relativiser. Tout le monde n'est peut-être pas comme moi, avec une certaine envie de progresser, toujours envie d'aller de l'avant et de démontrer que l'handicap n'est pas forcément toujours un handicap, mais qu'il peut être plus. Mais oui, pour moi, ça m'a apporté ce que je suis aujourd'hui.